Émission On en jase, ton émission du midi sur Boulevard 101 est exactement midi une minute. Pour nous joindre, 418-971-101, je sais que vous aimez beaucoup interagir avec nous. On va avoir un caucus tout simplement en feu avec Antonine Iaccarini qui est à la maison. Mauvais déglaçage des rues, accident d'auto cette semaine, épogné pas de char. Non mais ça là, hein? Cette ville de Québec-là, 652 plaintes sur le déneigement, mais Bruno Marchand encore osé dire sur nos zones hier. Ça va bien, les amis. On est bon dans le déneigement. OK, je vais faire un petit prélude. Je vais lancer à Poc tout de suite, Antonine, tiens. Anto, quand t'entends ça, on est bon dans le déneigement avec ton accident de char puis 652 plaintes. T'es trouves-tu bon en ville de Québec?
Écoute, c'est pas une bonne semaine pour me poser la question. Je le sais qu'on est on a été longtemps gâtés à Québec. Okay? Puis ouais. Je vais travailler à Montréal à chaque semaine. Je peux vous dire que quand on se compare, on se console.
Ça, c'est
mais
clair.
C'est vrai que moi, je préfère, au lieu de nous comparer au pire, ben, c'est sûr que je trouvais que le déneigement à Québec, ça a toujours été très efficace. Ça allait vite, on ramassait tout dans une nuit. Il me semble que ça roulait. Là. Puis là, récemment, on me dit aussi qu'il y a une pénurie de sel de déglaçage et que ça paraît, hein, puis que c'est plus compliqué à en trouver. Mm-hmm. Parfait. Est-ce qu'on peut fermer les côtes dangereuses si on n'a pas de sel à mettre dedans, s'il vous plaît?
C'est une excellente question. Ma foi, pourquoi tu penses à ça, Antonine? T'as un cerveau supérieur à la moyenne?
Écoute, j'ai la tête à Papineau. Ça doit être ça.
Tu devrais être au ministère de la sécurité
publique. Du déneigement. Écoute, d'ailleurs, je dois dire quand même que même si on critique, je ne voudrais pas être une élue municipale qui gère le déneigement. Non. Je sais que c'est un dossier qui n'est pas facile. Par contre, effectivement, cette semaine, je suis vraiment embêtée par ce qui s'est passé parce que ça aurait pu être très dangereux. J'ai cassé mon auto. C'est du matériel, j'ai des assurances, il faut quand même que je paye un certain montant, vous savez comment ça fonctionne.
Oh oui.
Il aurait pu avoir un piéton sur le trottoir que j'ai percuté, honnêtement, là, j'étais très contente, c'était à l'heure que les enfants vont à l'école, c'est la première chose qui m'est venue en tête après, je me suis dit, j'aurais pu frapper quelqu'un, et je ne roulais pas vite, je tiens à le dire.
Mais Anto, puis on termine là-dessus, après ça je vais rappeler aux gens comment nous suivre, on va faire des manchettes, on va aller au caucus, mais Anto, toi tu donnes des formations en relations publiques, tu travailles en gestion de crise, quand tu as 652 plaintes, moi j'ai travaillé au RTC, au département des plaintes, là. Puis là, t'sais, nous autres, une grosse journée, mettons, c'était 100 plaintes, bien quand j'avais une journée à 100 plaintes, là, je disais à mon équipe, « Hey guys, dites-moi c'est où que ça va le plus mal, dites-moi c'est quoi les trois plus gros problèmes, puis je vais aller cogner aux portes de ces gens-là, puis je vais leur dire, « Hey, faut que tu règles ça dans 48 heures parce que ça n'a pas de sens ce qui arrive. » Pourquoi qu'on ne fait pas ça à la Ville de Québec avec 652 plaintes en déneigement?
J'en ai aucune idée. Je sais que quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là, sur la route à Québec, il faut appeler le 311, si j'ai bien compris. Moi, j'ai plus tendance, c'est peut-être
à
des formations médiatiques.
C'est en plein ça, c'est le 311. Mais pourquoi là, le maire de Québec ou son administration, là, ils ne prennent pas les 652 plaintes qui sont rentrées au 311 et ils ne disent pas « OK, c'est quoi maintenant nos 5 priorités pour régler le maximum de problèmes qui nous a été rapporté dans les 652 plaintes. Parce qu'ils font pas ça, ils font juste nous dire « Bah, il y a plus de neige, c'est pas de notre faute, on est bon. » Mais c'est pas vrai qu'ils sont bons.
Écoute, il y a sûrement aussi des... Je sais que j'ai l'air très nuancée, là, mais c'est parce que je ne sais pas exactement ce que la Ville de Québec fait avec ça présentement. C'est sûr que si nous, on le sait pas, ben, il y a peut-être aussi un petit manque de communication sur... est-ce que c'est une priorité? Est-ce qu'on s'en occupe vraiment? Ou est-ce qu'on roule les yeux puis on dit les gens sont chialeux? Parce que c'est un peu ça aussi, hein, dans les dernières années. Je comprends qu'il y a peut-être une gestion du changement à faire. Peut-être, effectivement, je sais que toutes les municipalités sont prises avec des coupures budgétaires. Faut couper. Il faudrait nous l'expliquer, peut-être, par exemple. Donc, puis tu sais, nous, on suit ça tous les jours puis on a l'impression qu'il n'y a rien qui est fait à la suite des plaintes. Donc, il y a peut-être un petit problème, là.
Oui, et en primeur, midi 35 avec Alicia Despins, vous avez entendu parler de coupures aux patinoires extérieures à la Ville de Québec. On a coupé votre service de vidange. On déneige encore les pistes cyclables au coût d'1 million. Et là, on va vous parler de coupures de places dans les camps de jour. Ça n'a pas manqué, midi 35, c'est une exclusivité Boulevard 102.1. Donc, vous allez comprendre que le maire Marchand, pour ses idéologies de poêle à bois puis de pistes cyclables, il fonce à coups de millions de dollars. Mais pour vous, le citoyen, il vous coupe des patinoires, il vous coupe des places en camp de jour, il coupe sur le déneigement, ça vous fait faire des accidents de char comme Antonine Iaccarini. Donc, bref, Anto, pardonne-moi, je suis moins nuancé que toi. Je suis en maudit après le maire présentement.
Je comprends ton émotion, puis j'étais en maudit cette semaine. Mais écoute, on verra c'est quoi les réactions pour la suite. Moi, je suis plus une personne qui va regarder les actions que juste rester dans mon émotion. Donc, je suis très attentive, puis on va voir s'ils vont réussir à te défâcher, Jeff.
Ah, on verra. Donc, il y a un autre sœur qui nous dit « Craville, son syndiqué. Je travaille là, les gars me disaient « Slack un peu, tu vas nous faire mal paraître. Faut pas trop qu'on en fasse. » Ouais, malheureusement, des fois, dans les milieux syndicales, ça arrive. Pour nous joindre, pour nous écouter, blvd.fm, ça inclut la web radio. Les meilleurs moments de notre émission vont se retrouver sur cet endroit, notamment l'excellent caucus avec Antonine Iaccarini. Notre application Boulevard 102.1 est disponible sur App Store, Google Play Store. Meilleur moyen de nous écouter, vous téléchargez l'application, vous pouvez nous écouter où que vous allez. Et on sait qu'il y a des gens là, qui voyagent dans le Québec en entier, dans le Canada, donc vous allez pouvoir nous écouter. twitch.tv/blvd/fm. Pour les gens qui veulent venir nous voir en studio également, interagir sur le chat, on vous lit tout le temps. Et abonnez-vous à notre page YouTube, car ça vous permet d'avoir du contenu exclusif en images de Boulevard, notamment nos podcasts avec notre nouvelle série hors série mardi prochain. Lundi prochain, ça sera diffusé. Mardi prochain, ça va se retrouver sur YouTube, le podcast que j'ai fait avec mon cousin Éric Légaré sur la prévention du suicide, où on revient sur nos histoires. Avant de passer au caucus, Pascal, quelles sont les trois manchettes les plus importantes pour nos auditeurs à Boulevard 102?
Beaucoup de choses dans l'actualité ce matin qui ne fait pas partie de la politique. Je vais parler de cette nouvelle-là qui fait beaucoup jaser des présentatrices météo qui ont été menacées. Beaucoup de lettres violentes qui étaient destinées à ces présentatrices météo-là, surtout du côté de TVA, en fait. Puis on se rend compte que les autorités disaient, bon, ben t'es un peu la seule pour celles qui se plaignaient. Là-dedans, on va faire ce qu'on peut, mais bon... Finalement, on se rend compte qu'il y était plusieurs et ça fait des années qu'on est là-dedans. Ils demandent un petit peu plus d'entraide, demandent à ce qu'on cherche parce qu'on pense que c'est la même personne selon des indices qu'on a, concrètement à mettre la main sur cette personne-là. Et ça vient assez violent. Là. Je vous lis un passage qui nous a été donné dans l'actualité. Je m'excuse du langage, mais c'est écrit « Allô, crise de pute, toujours aussi laide à dire des nullités aux 15 minutes. Une autre qui a dû sucer des... »
Ah, ça n'a pas de sens.
Pour avoir un job aussi insignifiant, etc. Puis ça continue. Menace de mort, même pour certaines. Donc, on est là-dedans et il y a un dossier complet qui sera présenté par J.E. Doug Ford, bon, on revient à la politique, qui fait des siennes et qui a décidé d'avoir un petit rififi avec le Parti québécois et donc directement Paul Saint-Pierre Plamondon. Et ça tient l'actualité. Là. Doug Ford s'est défendu de ses propos sur le PQ. Il confie avoir le béguin pour les Québécois et donc souhaite... qu'il n'y ait pas de séparation du Québec au sein du Canada. Donc, Doug Ford ne regrette pas d'avoir dit que la séparation du Québec serait un désastre pour le Canada, mais il s'agirait tout de même d'un drame personnel pour le premier ministre de l'Ontario. Il dit qu'il y a des papillons dans le ventre quand il rencontre des Québécois. Bon, je ne sais pas si c'est l'afflux de médecins qu'a souhaité conquérir dans les derniers mois. Je ne sais pas qui a réussi à aller chercher autant le cœur de ce politicien assez coloré, mais chose certaine, il s'est calmé envers Paul Saint-Pierre Plamondon, puis Paul Saint-Pierre Plamondon, il a dit de se calmer aussi et de se mêler de ses affaires. Mais c'est une petite guerre idéologique qui se
On va en parler déroule. Dans le caucus avec Antonine Iaccarini. Rémi Villemur, aussi aux alentours de 13h10, va nous en parler dans sa chronique.
La gouverneure générale aussi a été pointée du doigt dans l'actualité en ce moment. Rémunération de la gouverneure générale qui atteint désormais 393 800 $. Rémunération pour Mary Simon. Elle avait fait l'actualité dans les dernières années pour d'autres sujets, mais là, on parle toujours des salaires des gouverneurs généraux. On dit qu'il y a une hausse de 4,18% ou de 15 800 $ comparativement à sa rémunération de l'an dernier, et ça fait jaser. Vous parlez souvent à Nicolas Gagnon, qui est directeur de la Fédération canadienne des contribuables, et il a pris parole là-dedans. Il dit « Pendant que plein de familles peinent à absorber le coût de la vie, c'est une hausse salariale qui équivaut presque à une année complète d'épicerie pour une famille. » Et pour lui, c'est absolument impossible à justifier cette hausse salariale-là, et ça fait l'actualité parce qu'on parle souvent des dépenses qui sont peut-être un petit peu trop perçues dans le coffre de tous ceux qui y contribuent, et ça en fait partie d'une autre histoire. Quelque chose un peu plus sportif, par exemple, qui commence à se faire aller au niveau, pas juste sportif, mais aussi au niveau économique et au niveau identitaire. Parce qu'on se demande à quel point ça peut être intéressant et à quel point on pourrait se laisser conquérir par des investisseurs étrangers. Au niveau du sport, on sait qu'ils ont de l'argent, ils ont les moyens de leurs ambitions. Ça ne fait pas l'unanimité. Beaucoup de sportifs qui ont été pointés du doigt pour faire affaire avec l'Arabie saoudite au courant des dernières années. Mais là, le Qatar a investi dans les Capitals de Washington et on tente, du côté de l'Arabie saoudite, d'investir dans le football universitaire américain. Extrêmement populaire, extrêmement payant, pour peut-être réussir à avoir une place dans la NFL par la suite. Et là, on se demande, bon, est-ce que ça pourrait être eux aussi qui investissent dans les Nordiques? Est-ce qu'ils pourraient ramener les Nordiques? Est-ce qu'on voudrait d'un pays du Moyen-Orient derrière cette bannière-là? Beaucoup de choses à jaser, autant politiquement, économiquement que moralement là-dedans.
On en parle avec Stéphane Turcotte tout à l'heure aux alentours de 12h50. On va évidemment revenir sur le match canadien-nordique de ce soir, mais on va aussi parler de cette présence de l'Arabie saoudite. Et il y a même Jean-Nicolas Blanchette dans le Journal de Québec aujourd'hui, dans sa chronique, qui mentionne que l'Arabie saoudite pourrait nous ramener nos Nordiques. Donc, je veux qu'on parle de ceci avec Stéphane Turcotte.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans Le Caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le Caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Bon, Antonin. Premièrement, il faut que je t'appelle Antonin, selon nos auditeurs. Parce qu'ils disent... Ben, ils disent, Antonin a tellement un beau nom que quand tu l'appelles Anto, ça jure. Donc, si je t'appelle Anto, il faut que tu me reprennes. Faut que je t'appelle Antonin.
Non. Moi, je te reprendrai pas, mais okay. je te laisse choisir. Là, commence pas à me vous voyez, par exemple.
Madame Antonin. C'est comme ça que Bernard Drainville t'avait appelé. J'aime ça.
Bel effort de M. Drainville.
Exactement. Et les auditeurs aussi m'ont texté pour dire « Jeff, tu devrais t'inspirer d'Antonin. » Elle a toujours la bonne perspective. Elle n'a pas besoin de se fâcher.
Ben. Ah, OK. Il faut quand même que je sois transparente. Dans ma voiture, disons quelques instants après l'impact, c'était moins chic un peu. Mais en onde, j'essaie d'être un petit peu plus calme et zen. Et c'est une de mes résolutions de 2026. Voilà.
Alors, Antonine Iaccarini, toi qui es zen et toujours de bonne humeur, remets-moi la bonne humeur avec ton caucus Iaccarini. Et on va commencer en parlant d'un dossier, honnêtement, que je sais qui nous tient vraiment à cœur. C'est le dossier du PEC, donc du programme Expérience Québec. Si tu le veux bien, je commencerai en te faisant écouter ce que Jean-François Roberge nous a dit sur nos ondes à Boulevard 102.1 à l'émission On en jase mardi concernant la possibilité d'une clause grand-père sur le programme Expérience Québec. Et après, Antonine, tu es la meilleure personne pour nous expliquer le tout.
Réponse rapide à leur demande, non. C'est-à-dire que je ne vais pas rétablir le PEC, qui est un programme qui est fermé, pour lequel on ne fait que traiter les dossiers qui ont déjà été soumis. Mm-hmm. Par contre, il y a des gens qui disent, c'est justement ça une clause grand-père. C'est des gens qui ont déjà été impliqués dans un programme, qui ont soumis leur dossier. On traite leur dossier dans ce programme-là avant de le fermer. C'est ça qu'on le fait. Mais ce que les gens demandent, c'est qu'ils pervertissent un peu le terme clause grand-père, puis ils disent, les gens qui sont arrivés en 2021, qui ont travaillé pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, puis qui pensaient un jour déposer dans le programme PEC, maintenant qu'il est fermé, voulez-vous leur donner une clause grand-père et le réouvrir pour eux? À cette question, je réponds non.
Alors, voilà ce que M. Roberge nous a dit. Là, moi, ce que je comprends, c'est que, les gens qui sont déjà dans le PEC, leur dossier va être analysé, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être acceptés. Puis là, si je me fais un peu l'avocat du diable, je me dis le CAC n'est pas parti pour ouvrir les valves. Donc, il y en a sûrement qui ne seront pas acceptés en se basant sur les nouveaux principes du programme spécialisé, justement, en immigration économique. Et pour tous ceux et celles qui travaillent à l'heure actuelle, et je le rappelle, sont 13 000 citoyens dans cette situation-là présentement à Québec, on va leur dire, remplis-nous des petits formulaires. T'sais, on va te saboter la vie, puis ça se peut qu'on te dise non aussi.
Effectivement. Puis souvent, de toute façon, ces immigrants temporaires-là doivent déjà remplir pas mal de formulaires parce que en immigration temporaire, il faut que tu demandes des permis de travail. C'est le fédéral qui gère ça. Je vous laisse imaginer comment ça doit être parfois frustrant avec la bureaucratie. Mais là, je reviens un peu en arrière parce que pour comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment, faut regarder ce qui s'est passé depuis 2018, depuis l'élection de la CAQ. Parce que Simon-Jolin Barrette, en 2018, ministre de l'Immigration à l'époque, avait réformé le programme Expérience québécoise, là, qu'on appelle communément le PEC, et il avait resserré les critères. Et lui, les dossiers qui étaient déjà dans le pipeline, il les avait mis dans la déchiqueteuse. Okay? Donc ça avait fait grand scandale il y a quelques années, et on avait fini par rétablir ces dossiers-là. Il y avait eu une clause grand-père, mais c'est la ministre suivante, Nadine Giraud, là, qui avait lâché un peu de lest là-dessus. Mais Simon-Jolin Barrette devait baisser drastiquement les seuils. Ensuite, c'est Christine Fréchette qui devient ministre de l'Immigration dans le deuxième mandat de la CAQ. Et là, c'est là qu'il y a eu l'erreur, à mon avis. Il y a eu plusieurs erreurs en immigration, mais la CAQ a déplafonné le PEC. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès que quelqu'un remplissait les critères, il était admis, peu importe les seuils d'immigration. Donc là, on contrôlait plus le nombre comme tel. Et vu la grande présence de gens qui sont dans des situations d'immigration temporaire au Québec. Sais-tu qu'il y en a combien de jobs des immigrants temporaires au Québec?
Il y en a combien?
600 000.
600 000 personnes. Donc, est-ce que le PEC peut toucher à ces 600 000 personnes-là? Le retrait du PEC devrait se gérer?
Ben oui, c'est ça qui est en train de se passer. C'est que là, pendant 2 ans, on a dit à ces gens-là, le message qui a été envoyé, c'est « tu vas pouvoir t'essayer dans le PEC, puis si tu remplis des critères, c'est quasiment sûr. C'est sûr que tu es admis, finalement. » Alors que, dans la vraie vie, il y a un seuil, puis à un moment donné, c'est fini. Mais là, on avait ouvert ça. C'est drôle, là, venant d'un gouvernement caquiste, d'avoir fait cette action-là, d'avoir pris cette mesure-là.
Hey, je t'arrête deux secondes, oui. Anto. Là, ça veut dire que pendant qu'on se plaignait que le fédéral ouvrait les valves en immigration, on faisait pareil.
Hey, en fait, oui, mais il y a beaucoup de ces immigrants temporaires-là qui sont sous le régime fédéral aussi. Okay. C'est-à-dire que c'est une responsabilité partagée. Puis c'est vrai que la CAQ n'a pas fait grand-chose pour contrôler l'immigration temporaire dans le premier mandat. Il y a des choses plus difficiles à contrôler que d'autres aussi, notamment les demandeurs d'asile. Là, ça, c'est quelque chose qui est un peu difficile à planifier. Mais du côté des étudiants internationaux et des travailleurs étrangers temporaires, il n'y a à peu près rien qui avait été fait. Donc là, on s'est retrouvé avec un grand nombre d'immigrants temporaires et un PEC, donc de l'immigration permanente, complètement déplafonné. Donc, évidemment, si tu es sur le territoire, tu vois que ce programme-là qui existe, tu te dis, moi, je vais avoir une porte d'entrée pour l'immigration permanente. Tu t'installes, tu apprends le français, tu fais des plans de vie, là. Il y en a qui ont des enfants, qui ont leur famille ici, etc., etc. Et là, tout à coup, Jean-François Robert, je dis, là, ça n'a plus de bon sens, on ne respecte pas nos seuils, parce qu'on s'est fixé des seuils de 50 000 au Québec en ce moment. Donc, il dit, on va refermer le programme et on va faire des changements dans l'autre programme d'immigration permanente, le PRTQ, vous m'excuserez tous les acronymes ce matin, et les gens vont pouvoir appliquer dans celui-là et peut-être se qualifier, mais ça va respecter aussi nos seuils. On s'est mis des seuils à 50 000, on les respecte. Là, tout le monde sort pour dire, ben, évidemment, il y a plein d'histoires terribles, là. Il y a des gens qui, puis moi, ça me tire les larmes, là. Je suis très, très, très sensible à ça. Que les règles ont changé et que maintenant, ça ne fonctionne plus. Mais là, par exemple, quand les libéraux, cette semaine, en caucus, disent « Nous, on va la promettre, la clause grand-père. » Parfait. J'ai 2 questions pour vous. C'est quoi les critères? Parce que, est-ce que les 600 000 personnes vont bénéficier d'une clause grand-père parce qu'ils ont pensé éventuellement s'inscrire dans ce programme-là? Ou est-ce qu'on parle des dossiers déjà en cours? Parce que le dossier en cours, le ministre l'a dit, il va les traiter. Puis ma deuxième question, c'est dans ce cas-là, à combien vous voulez les mettre, les seuils? Donc là, ce qui se passe, c'est que le ministre Roberge, demain, va annoncer qu'il va avoir des ajustements qui vont être faits pour le PRTQ. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir des seuils de 200 000, là. Ça n'arrivera pas. Il faut quand même être réaliste, là. Puis c'est triste, j'ai beaucoup d'empathie pour les personnes, mais ça n'arrivera pas. Et va annoncer qu'on va prioriser les gens déjà ici. Okay, donc ça, c'est une lueur d'espoir pour quand même pas mal de personnes, quelques dizaines de milliers au moins, ça va pas couvrir tout le monde. Puis ce qui est terrible aussi pour les personnes qui sont en situation d'immigration temporaire et qui souhaitaient rester, c'est que le fédéral aussi a décidé de couper drastiquement. Il s'est réveillé lui aussi sur la quantité d'immigrants temporaires et veulent en couper à peu près 170 000. Donc, les gens qui pensaient qu'ils avaient le temps, qu'ils pouvaient renouveler leur permis de travail ou leur permis d'études, un petit peu là, se donnant de l'oxygène pour avoir le temps d'atteindre les critères du PEC, bien là, ils voient la fenêtre se refermer. C'est ça le drame aussi, c'est qu'il y a deux choses, deux paliers de gouvernement qui ont changé leurs règles en même temps. Et là, la fenêtre se referme brusquement devant leur nez. Et là, il y a des maires qui sortent. Moi, dans ma région, j'en ai. Et là, on a des exemples. Moi, j'ai des cuisiniers, ils parlent français. Pourquoi on les renvoie? Ça n'a pas de bon sens. Les travailleurs de la santé, ils parlent français et on en a besoin. Ça n'a pas de bon sens.
Ben oui, plein de préposés aux bénéficiaires. Il y a Alstom à l'Apocatière qui risque de perdre 175 employés alors qu'on a des contrats par-dessus la tête de 2,3 milliards. De dollars.
Puis là, ces histoires-là, là, ça, on en a des milliers. Mais à un moment donné, il faut quand même faire une addition. C'est pas juste ma région, mon entreprise. Il faut les additionner puis se demander, OK, est-ce que vous êtes prêts, les Québécois, à augmenter vos seuils pour les prochaines années, alors qu'on parle de crise du logement, crise des services publics, etc. C'est un choix de société, là. Puis il faut se poser la question. Mais c'est pas vrai qu'on peut le prendre région par région. Il faut avoir une vision qui est globale et ça veut dire que les seuils qu'on s'est fixés à 50 000, ben ça ne tient plus. Et oui, on paye le prix des décisions et des montagnes russes de politique publique en immigration, mais là, c'est ça la situation dans laquelle on se trouve présentement, ce que je trouve déplorable parce qu'avec une meilleure planification, si on gouvernait pas en dents de scie en immigration, on pourrait éviter les situations qu'on connaît présentement. C'est extrêmement triste humainement et c'est aussi déplorable économiquement pour plein de régions, plein d'entreprises, mais c'est ça la situation dans laquelle on est. Donc, c'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser au premier regard.
En effet, c'est un domaine très complexe, c'est de trouver les bons seuils d'immigration. Je retiens, Antonine, avec qu'est-ce que tu nous dis, que Charles Milliard, quand il nous dit hier sur nos zones, « Hey, je vais la mettre la clause grand-père », c'est plus compliqué que ça. Je me fais l'avocat du diable deux secondes. Par exemple, ce monde-là ont déjà des logements. Fait que l'argument crise du logement... On dirait qu'il ne m'atteint pas, moi, pour cette particularité-là.
Oui, tu as raison, mais en même temps, regarde les taux d'inoccupation dans les municipalités. Il y en a des gens qui cherchent des logements et à un moment donné, il y a un impact aussi sur les coûts des logements.
C'est vrai que s'il y en a qui quittent, tu as raison.
Il y a un impact sur l'itinérance. Par contre, il faut faire attention comment on le présente. Ce n'est pas de la faute des immigrants si on a une crise du logement. Mais si tu regardes économiquement, il y a un impact quand même quand tu as une forte immigration. Puis 600 000 immigrants temporaires, ça a un impact. Et c'est très dommage aussi pour, parce que je pourrais vous en parler pendant une heure, mais les établissements d'enseignement en ce moment qui ont vu les règles changer aussi et qui comptent sur les étudiants internationaux pour, disons, remplir certains programmes qui n'existeront plus si on a juste les Québécois qui les ont dans certaines régions. Là, il y a 3 personnes qui veulent faire le cours. Fait qu'ils vont pas ouvrir une classe pour 3 personnes. Et c'est aussi, ils payent plus cher les étudiants internationaux pour aller dans nos établissements. Donc, c'est un moyen de financement. Quand les règles changent sans arrêt, comment voulez-vous, comme établissement d'enseignement, planifier les prochaines années, les infrastructures dont tu as besoin, etc. Donc, il faut vraiment qu'on arrête les montagnes russes. Malheureusement, je suis un peu cynique parce que l'élection s'en vient, ça n'arrivera pas. On nous promet des clauses grand-père inapplicables, le PQ va nous promettre de couper les immigrants de manière drastique. Donc, malheureusement, je pense que les dents de scie vont continuer en immigration et c'est vraiment déplorable.
Antonine, moi, je te nomme ministre de l'immigration demain matin. Donc,
j'ai le déneigement.
Oui, exactement. Je suis un ministre de l'immigration.
La sécurité publique aussi.
Ça va bien aller.
Merci. OK.
Sécurité publique.
J'accepte.
Ouais. T'es pas occupé pendant tout. Anto, on saute à pieds joints dans la crise politique de la journée parce qu'on en a plein depuis une semaine. On a le discours de Mark Carney sur les plaines, le discours à Davos. On a plein de le discours de PSPP dimanche, la réplique de Marc Macron-Tanguay avec ses lunettes. Et là, Doug Ford a parlé hier. Il a dit ça n'a pas de sens. D'élire le PQ à la tête du Québec parce qu'ils veulent se séparer de notre Canada uni. On écoute la réplique de PSPP ce matin à l'entrée de son caucus à Saint-Georges-de-Beauce.
Évidemment que Doug Ford travaille pour les intérêts de l'Ontario. Donc, quand il se présente comme la personne qui veut notre bien, je pense que les gens ont tous un petit sourire. Et évidemment, on peut regarder dans l'histoire récente... Puis je sais que l'histoire, des fois, là, faut faire attention, mais on peut regarder dans l'histoire récente, il y a quelques mois, il était en train de voler nos médecins en tentant de profiter d'une négociation difficile entre François Legault puis les fédérations de médecins. On peut regarder justement cette publicité envoyée aux États-Unis sans aucune coordination avec le Québec, mais qui se transforme en des menaces très sérieuses de tarifs. Donc,
Doug Ford et son unité canadienne, là, je dirais plus que c'est une unité ontarienne. T'sais. quand Mark Carney s'en va en Chine pour signer un deal, il crie au scandale parce que c'est son industrie automobile. Quand on arrache avec nos médecins, il dit « Quand j'ai une opportunité là, je vais arracher des médecins au Québec. » Quand l'Alberta brandit le pétrole, il dit « Hey, ça tombe bien, moi, j'ai des usines de transformation de pétrole, fait que je vais accompagner l'Alberta. » Il n'est pas en unité canadienne pantoute, Doug Ford. Là.
Non! Non, non, pense pas?
Je te l'apprends.
Hey, je tombe en bas de ma chaise.
Ben, c'est ça que je pensais.
Je suis content. Je pensais qu'ils travaillaient pour le bien commun de tous les Canadiens.
J'ai appris quelque chose, Antonine Iaccarini. Une étoile dans mon cahier, s'il vous plaît.
Écoute, Doug Ford, effectivement, qui essaie d'être capitaine Canada là, depuis un an et qui se bat très fort là, pour... Je ne sais pas s'il y a des ambitions de devenir premier ministre du Canada un jour. J'aurais tendance à penser que oui, je ne le connais pas personnellement. Mais j'adhère à tout ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a dit dans sa réaction. Là. Effectivement, M. Ford travaille pour ses intérêts et ceux de l'Ontario. Puis... Ça me rappelle à quel point c'est important de bien connaître notre histoire. Je sais que ça intéresse pas tout le monde, hein, l'histoire, là. Puis c'est des fois, ça peut sembler un peu aride. Mais pourquoi il faut connaître notre histoire? C'est parce que l'histoire se répète toujours. Et là, quand tu as connu le référendum de 1995, c'est toutes des affaires qu'on a déjà entendues en 1995. Il a le béguin pour nous. Il nous aime. Je pense que bientôt, Doug Ford va organiser le Lovin 2.0.
Mais je comprends même pas en quoi ça Montréal. Console. Je comprends même pas en quoi ça console par rapport aux propos. T'sais, le gars, il aime ça, là, faire du marketing avec des propos du type. Puis là, il est rendu qu'il trippe sur nous autres. Là. Honnêtement, là, ça peut être gênant là, que Doug Ford trippe sur nous.
C'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Et je te dirais par contre que l'aspect émotif de « je vous aime », tout le monde roule des yeux et rit. Okay? Ça, c'est clair. Par contre, le plus grand adversaire du Parti québécois et de la souveraineté, en ce moment, c'est l'insécurité, c'est l'instabilité avec les États-Unis. Les gens sont anxieux et ça peut continuer de jouer dans la tête des gens. Il y a quand même des électeurs là, en ce moment qui disent qu'ils vont voter pour le PQ à la prochaine élection et qui disent qu'ils voteraient non. Donc, c'est sûr que le PQ ne peut pas être complètement rassuré en voyant que non seulement, évidemment, il y a une mobilisation puis qu'on joue sur l'anxiété des électeurs, mais aussi de voir à quel point M. Carney demeure populaire. Des derniers sondages ont montré que les taux de satisfaction étaient très élevés, que les gens appuyaient l'entente qui a été signée avec la Chine, par exemple. Donc, le PQ essaye de taper sur Mark Carney et sur le Canada. Et de l'autre côté, les Québécois sont assez satisfaits. Puis, je finis là-dessus, mais le Bloc québécois, ça va pas très bien en ce moment dans les sondages. Puis ça, c'est pas un très bon signe pour le PQ, parce qu'au fédéral, il y a beaucoup d'électeurs québécois qui savent pas pour qui voter. C'est un petit peu plus compliqué. Alors qu'au Québec, il pourrait avoir des alternatives bientôt. Là. J'entends, je vais vous le dire, là, beaucoup de gens autour de moi qui sont pas des caquistes ou des péquistes convaincus, mais qui regardent Christine Fréchette aller là, présentement dans sa course à la chefferie. Et j'entends des libéraux, des solidaires me dire « Si Christine Fréchette gagne la course à la chefferie de la CAQ, ça se peut que je vote pour la CAQ à la prochaine élection. » Je la trouve rassurante. Elle a une expertise économique. On a besoin de quelqu'un de calme pendant la crise avec les États-Unis. Ça, j'ai beaucoup, beaucoup entendu ça. Donc, pas évident pour le PQ. Et je trouve que Christine Fréchette est différente de Mark Carney, mais cette espèce de calme et d'aura économique, ils ont ça en commun.
C'est le même profil, t'as entièrement raison. Pour faire une petite parenthèse sur le Bloc québécois, on est passé de 38% à 26% dans les intentions de vote.
Des bonnes nouvelles, là.
Ah, vraiment pas. On a justement parlé avec Victor Henriquez hier. Antonine, pour compléter cet excellent caucus, je veux jouer un quiz avec toi. T'es prête?
Je suis prêt.
Il faut que tu me dises qui tu entends ces deux personnes dans le prochain extrait. Je te le fais jouer.
Ah, oh, ben là, rendu là, moi, on va pas s'immiscer dans les chicanes entre le Parti québécois et le Parti libéral. Là. Ben écoutez, dans l'échelle de tout le monde qui devrait s'excuser, je pense que c'est pas le premier. Là.
Sérieusement, là, les Québécois nous regardent. On est en année électorale. Les gens, je le vois, moi je suis aux sorties là, des épiceries, des magasins à une pièce et partout. Les gens, ils ont peur, ils savent pas comment ils vont finir la fin.
Mais Anto, qui sont ces deux personnes? À qui sont ces voix?
Mais ça me dit vraiment quelque chose.
Ouais.
Je sais pas trop.
Ah, je pense que le premier, c'était... Sol Zanetti. Mais est-ce que Québec solidaire existe encore? Je n'en ai pas entendu parler depuis longtemps.
Écoute, c'est la semaine des caucus présentement. C'est la rentrée parlementaire la semaine prochaine. Puis c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses, là.
Ouais.
Mais ils sont complètement invisibles. Même les libéraux ont eu un petit peu de difficulté à exister dans les derniers temps, mais Québec solidaire est complètement invisible. Et moi, je pensais que QS, c'était quand même un parti souverainiste. J'avais eu cette impression-là là, pendant un bout de temps. Je sais qu'il y a des gens qui vont m'écrire et me dire que c'est pas vrai. Mais c'est un parti souverainiste. Seul Zanetti, c'est un souverainiste convaincu. Mais ils veulent pas se mêler des chicanes. On dirait que j'entendais un libéral parler, honnêtement.
Oui, exactement. Et la deuxième personne, c'était Ruba Gazal, la co-porte-parole aussi Québec solidaire. Québec solidaire est censé être un parti indépendantiste. On a eu un discours de Mark Carney qui a défait complètement l'histoire des plaines d'Abraham. Je dis ça, puis je dis rien.
C'est ça. Là, ça, c'est le nouveau discours. Là, on parle juste des vraies affaires, puis on parle du vrai monde. Je veux juste annoncer, là, il n'y a pas de fausses affaires. Il n'y a pas de faux monde dans la vie. Puis tu peux défendre le portefeuille des Québécois puis leur pouvoir d'achat puis d'aller faire leur épicerie en même temps que tu te tiens debout comme nation puis que tu dénonces les propos de Mark Carney.
Exactement. Oui. Antonine Iaccarini, toujours un plaisir et un bonheur de t'avoir en onde avec nous.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Bon week-end. Salut, c'est Antonine Iaccarini, caucus avec Antonine du lundi au jeudi aux alentours de midi. Bon, on dure ça jusqu'à 12h30. C'est toujours un plaisir de jaser avec Antonine. Pascal, on fait un arrêt. Et dans un instant, à Boulevard 102.1, on va avoir deux choses très intéressantes. Premièrement, une chronique politique municipale avec Alicia Despins. On va sortir notre primeur sur les camps de jour. Donc, restez à l'écoute, ça vaut vraiment la peine. Je sais qu'il y a énormément d'auditeurs de Boulevard 102.1 qui, lorsque ça va être le temps de l'inscription au camp de jour, vont avoir la tablette d'ouverte, le portable, le cellulaire, la grand-mère et le grand-père vont avoir la même affaire, la blonde du chum, si c'est du père, si c'est une famille recomposée, va avoir tout ça d'ouvert aussi. On va essayer de se brancher à 8-9 places différentes pour avoir des places en camp de jour, mais là, vous ne croirez pas à ce qu'on va vous dire. Et Stéphane Turcot, Pascal, va venir s'asseoir en studio avec nous autres parce que ce soir, c'est le match. Le match nordique versus canadien. J'ai pris une décision. Je m'en vais directement dans un magasin sportif après le show. Je vais m'acheter mon gilet des Nordiques. Je m'assois à côté de mes gars qui vont avoir leur gilet du Canadien à soir. Je vais te dire une affaire. La rivalité va revivre dans le salon des Fortins. Ça te convient, ça, Pascal?
Ça me convient.
Excellent. L'émission d'Angers sur Boulevard 102.1.